Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. Une cinquantaine de personnes ont été inculpées ce jeudi dans une affaire de corruption au ministère de la Défense. Les deux avions spéciaux envoyés au Japon sont arrivés à Prague. Le Premier ministre a rassuré l'opinion publique de la sûreté nucléaire en République tchèque. Le gouvernement a nommé ce jeudi une commission chargée des négociations entre l'État et les églises du pays. Le bureau du procureur régional de České Budějovice a inculpé jeudi 52 personnes soupçonnées d'avoir manipulé une trentaine de commandes au ministère de la Défense pour un montant de plusieurs centaines de millions de couronnes. Parmi les inculpés figurent 11 anciens employés du ministère, 38 représentants de sociétés et entreprises, 2 notaires et un avocat. La décision a été rendue après une enquête entamée en 2006. Il s'agit de l'affaire la plus importante menée par la police chargé de la lutte contre la corruption. Les deux avions de l'armée envoyés pour rapatrier les Tchèques du Japon ont atterri à l'aéroport de Gbalé à Prague jeudi matin. Un peu plus d'une centaine de passagers se trouvaient à bord. Outre des Tchèques, des Slovaques, des Français, un Polonais, un Bulgare et un Coréen ont également profité des avions mis à disposition par le gouvernement tchèque, alors que le trafic aérien japonais est fortement perturbé depuis le tremblement de terre vendredi dernier. Parmi les Tchèques se trouvait une quarantaine de membres de l'orchestre philharmonique ont tourné au Japon. Leurs collègues qui sont restés sur place seront rapatriés vendredi. À leur arrivée à Prague, les voyageurs ont eu la possibilité de mesurer leur dose d'irradiation avec un dosimètre. Tous les tests ont eu un résultat négatif, a annoncé le ministre de la Défense, Alexandre Vondra. La crise nucléaire japonaise ne présente aucun risque pour la République tchèque et ne nécessitera pas de mesures de protection. La présidente de l'Office national de la sécurité nucléaire, Dana Drabova, l'a déclaré ce jeudi à l'issue du Conseil des ministres. L'accident de la centrale de Fukushima ne peut avoir aucun impact en République tchèque, a-t-elle déclaré en expliquant que prendre des comprimés d'iode est ici inutile. D'après le Premier ministre Petr Nečas, quant à lui, il a assuré l'opinion publique de la sûreté des centrales nucléaires tchèques de Temelin et de Dukovany. Le chef du gouvernement a également déclaré que l'achèvement de la construction de Temelin était toujours d'actualité. Les organisations écologistes tchèques ont pourtant demandé dans une lettre ouverte adressée ce jeudi au Premier ministre des tests de résistance de ces centrales. Le gouvernement tchèque se dit prêt à apporter une aide financière au Japon, mais il attend encore la décision prise au niveau de l'Union européenne. Plusieurs manifestations caritatives en soutien au Japon sont prévues, par exemple un concert de l'Orchestre symphonique de Prague, EFOKA, qui aura lieu le 27 mars prochain à la maison municipale de Prague, ou encore un concert de rock annoncé pour le 29 mars au palais Lucerna. La Galerie nationale organise ce dimanche une journée japonaise au palais Kinski. Et puis la Philharmonie tchèque, touchée directement par le séisme pendant sa tournée au Japon, prévoit elle aussi d'organiser un concert en faveur des sinistrés. Le gouvernement a nommé ce jeudi une commission chargée des négociations entre l'État et les églises du pays. Cette dernière est composée de 7 membres, dont les ministres de la Culture, des Finances et de l'Agriculture, ainsi que de la vice-présidente de la Chambre des députés, Katarzyna Krasnova, ou encore du chef du bureau du président de la République, Jiří Weigl. L'objectif de la commission sera de trouver un consensus entre l'État et les églises sur le règlement relatif à l'expropriation et à la restitution des biens des églises et devra également se pencher sur le futur traité entre la République tchèque et le Vatican. Une commission parallèle sera également créée pour représenter les églises. Côté météo, vendredi, jour de la fête des Eduard, en République tchèque, le ciel sera chargé sur l'ensemble du territoire avec de la pluie. Les températures varieront entre 4 et 8 degrés. Dans l'est du pays, elles pourront grimper jusqu'à 11 degrés. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková. La suite du programme avec Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Magdalena pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Deux grands thèmes seront abordés aujourd'hui. Nous parlerons tout d'abord du 60e anniversaire du lancement des émissions en tchèque de Radio Free Europe, Radio Liberty, ou si vous préférez, Radio Europe Libre, Radio Liberté. Des émissions qui n'existent plus aujourd'hui, mais la radio tchèque et d'autres institutions ont décidé de marquer le coup en rappelant ce chapitre légendaire du journalisme radiophonique tchèque. Il sera ensuite question d'un peintre de lumière, Josef Šíma, un peintre tchèque qui a passé l'essentiel de sa vie en France et dont les tableaux sont actuellement exposés à Prague. Et puis enfin, la rubrique du jour sera également consacrée à l'art, plus précisément à la danse contemporaine, avec le portrait et l'interview d'Ivona Krojmanova. Vous en saurez plus dans la seconde moitié de l'émission. En attendant, très bonne écoute à toutes et à tous. Le 1er mai prochain sera célébré le 60e anniversaire du lancement des émissions en tchèque de Radio Free Europe, Radio Liberty. Synonyme de liberté d'information pour les Tchécoslovaques sous le régime communiste, la légendaire station américaine, dont le siège se trouve aujourd'hui encore à Prague, a émis en tchèque jusqu'en 2002, soit 3 ans après l'adhésion de la République tchèque à l'OTAN. Pour marquer cet anniversaire, la radio tchèque, en collaboration avec d'autres institutions publiques, a lancé, début mars, un vaste projet de 3 mois baptisé Svobodně, librement. L'objectif de ce projet est d'abord de rappeler que la démocratisation de la Tchécoslovaquie n'a pas commencé en 1989 avec la révolution et la chute du régime communiste, comme l'a rappelé le directeur de la radio tchèque, Petr Duhan.
La lutte pour la liberté a commencé bien avant. Elle a été immensément pénible et remplie de victimes, et il ne faut pas l'oublier. En même temps, ce projet s'adresse à tous les jeunes qui devraient savoir sur quel pilier repose la liberté dont nous disposons aujourd'hui.
L'espace de 3 mois, de mars à mai, toute une série d'émissions spéciales, conférences, expositions et autres événements seront donc proposés au public, essentiellement aux auditeurs des différentes stations de la radio tchèque. Celle-ci a préparé ce vaste projet en collaboration avec la Faculté des Lettres de l'Université Charles à Prague, le Sénat et l'Institut pour l'étude des régimes totalitaires. En 1951, au moment du lancement de Radio Libre Europe, Radio Liberté, le premier directeur de la rédaction tchèque a été Ferdinand Perotka, un des plus célèbres journalistes tchèques du XXe siècle. La qualité des journalistes et par conséquent des émissions a justement été une des raisons du succès de Radio Libre Europe auprès du public tchèque et slovaque. C'est ce que rappelle John O'Sullivan, l'actuel directeur des programmes de Radio Free Europe.
La Pologne, la Roumanie et la République tchèque ont probablement été les 3 services les plus importants pour nous car leurs émissions avaient une réelle audience. Nous possédions des journalistes extrêmement bons qui opéraient en dehors de Munich où se trouvait alors le siège de Radio Free Europe. Ces journalistes étaient tchèques et s'adressaient aux auditeurs tchèques. Ils ont contribué à la survie du mouvement dissident, comme par exemple la Charte 77.
À d'autres moments clés de l'histoire de la Tchécoslovaquie dans la seconde moitié du XXe siècle, que ce soit en 1968 et 1969 avec l'écrasement du printemps de Prague ou en 1989, la radio américaine, malgré les efforts du régime pour supprimer la diffusion de ses émissions, a également joué un rôle parfois crucial dans l'évolution des événements. Avec l'installation de la démocratie en Tchécoslovaquie, puis en République tchèque, Radio Libre Europe, Europe Libre, a logiquement supprimé la diffusion de ses émissions en tchèque. C'était en 2002. Aujourd'hui, la station américaine concourt à la lutte pour la liberté dans d'autres pays et régions du monde, comme l'a expliqué John O'Sullivan.
Nous avons des Iraniens qui diffusent vers l'Iran, des Russes qui diffusent vers la Russie, ou des journalistes d'Asie centrale qui diffusent vers l'Asie centrale et leur pays. Les régimes autoritaires sont cependant un peu moins cohérents que ne l'était le bloc soviétique. Il s'agit en outre souvent de régimes dans lesquels existe un culte de la personnalité et qui possèdent des dictateurs qui ont parfois un caractère particulier. Cela dit, le KGB mène toujours la danse dans ces sociétés.
Le directeur des programmes de Radio Europe Libre rappelle également que dès le début, dans les années 1950, la rédaction tchèque de la station américaine a été une sorte d'antenne de la radio publique tchécoslovaque. Ces journalistes s'efforçaient alors de proposer des programmes et de traiter de sujets dont le régime communiste aurait interdit la diffusion en Tchécoslovaquie, les considérant comme de la subversion ou de la propagande capitaliste. Une réalité qui a prévalu jusqu'à l'effondrement du régime. Progressivement, de nombreux journalistes de Radio Europe Libre ont alors rejoint les rangs de la radio tchèque. On passe à la culture. La Galerie Moderna à Prague organise jusqu'au 27 mars une exposition d'œuvres du peintre tchèque Josef Šíma, qui passa la majeure partie de sa vie en France. Anna Kubišta a visité cette exposition.
Dans la famille des peintres tchèques en France, il y a évidemment František Kupka, il y a aussi la surréaliste Toyen, et puis il y a Josef Šíma, sans doute l'un des plus grands peintres tchèques du XXe siècle, parfois injustement oublié. D'ailleurs, pour l'heure, il n'y a que la Galerie Moderna à ne pas avoir omis de célébrer cet artiste, alors que 2011 correspond à deux anniversaires, les 120 ans de sa naissance et les 40 ans écoulés depuis sa disparition. Une omission que peine à comprendre Martin Zeman, propriétaire de la Galerie Moderna.
Honnêtement, je ne comprends pas qui d'autre que Josef Šíma mérite d'être commémoré. Nous avons quelques perles de l'art tchèque, comme Kupka, Šíma, Toyen ou Štýrský. Et Mucha, même si c'est une autre époque. Donc je ne comprends pas. Šíma mériterait d'être célébré comme il se doit en République tchèque. Même s'il est devenu français, il est resté tchèque intimement et retourné à Prague. C'est triste, mais c'est dû aux personnes qui sont à l'heure actuelle aux manettes dans les institutions.
Membre du groupe d'avant-garde tchèque Devětsil, Josef Šíma part en France en 1921, obtient la nationalité française 5 ans plus tard et passera le reste de sa vie dans l'Hexagone. Là-bas, il fonde un autre groupe, le Grand Jeu, avec des poètes tels que Roger Vaillant. S'il est souvent placé dans le groupe des surréalistes, son œuvre est très différente de celle très crue d'une Toyen. Plus onirique, plus poétique, souvent à la limite du symbolisme, Josef Šíma est par exemple fasciné par les paysages et la mythologie. Autre objet de fascination, la lumière, comme le souligne le titre de l'exposition, qui reprend l'intitulé d'un cycle d'œuvres, Gouttes de lumière. Dans les années 1960, d'ailleurs, il réalise les vitraux de l'église Saint-Jacques à Reims. Martin Zeman.
Il travaille sur cette commande de manière continue de 1963 à 1969. Bien sûr, de ce fait, il se fait à Reims beaucoup d'amis qui possèdent d'importantes collections. En ce qui concerne les gouttes de lumière, à partir de 1950, Šíma peint ses œuvres majeures et la lumière devient peu à peu son thème principal. Il irradie tout l'espace de ses tableaux et trouve alors une nouvelle vision de l'unité qu'il va poursuivre toute sa vie. La lumière est le pilier de ses tableaux. Le cycle Gouttes de lumière voit le jour pendant plusieurs années et sera son sujet le plus important jusqu'à sa mort.
La plus grande partie des collections Šíma se trouve évidemment en France et en République tchèque, même si l'on trouve également des œuvres en Italie et en Suisse. Parmi les tableaux présentés à la Galerie Moderna, certains proviennent de la collection Monique Faux, admiratrice et collectionneuse du travail de Josef Šíma, qui vivait justement à Reims et rédigera d'ailleurs une biographie sur l'artiste. Josef Šíma est décédé à Paris en 1971. La dernière grande exposition qui lui a été consacrée dans son pays d'origine remonte à 1968. Depuis, seules de petites galeries ont périodiquement organisé des expositions. Gouttes de lumière est à voir à la Galerie Moderna jusqu'au 27 mars prochain.
C'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de notre programme avec la rubrique, une rubrique aujourd'hui consacrée aux Tchèques célèbres et moins célèbres. Il est question de danse moderne, mais pas seulement, car l'invitée de Magdalena Rozinková dans cette émission, Ivona Krojzmanová, est une femme au talent et aux activités multiples. Danseuse elle-même, Ivona Krojzmanová a fondé, juste après la chute du communisme, le plus important festival de danse contemporaine dans le pays, Tanec Praha, Prague Danse, et a fait venir en République tchèque une pléiade de solistes et de compagnies mondialement connues telles que Maggie Maren, Marie Chouinard, Michael Baryshnikov, Mercy Cunningham ou encore la troupe taïwanaise Cloudgate Dance Theatre. Mère divorcée de deux enfants, Ivona Kruzmanova joue du volleyball amateur, fait de la plongée sous-marine et occupe le poste de directrice artistique du projet Plzeň, capitale culturelle de l'Europe en 2015. En 2003, Ivona Kruzmanova a été nommée chevalier de l'Ordre national du mérite.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres.
Cette nouvelle édition du magazine Les Tchèques célèbres et moins célèbres, nous nous sommes déplacés au théâtre Ponet à Prague et nous y retrouvons sa directrice Ivona Kruzmanova. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez en fait fondé ce théâtre au milieu des années 90. À l'époque, le bâtiment était en ruine et vous l'avez choisi pour y aménager le premier théâtre de la première scène de danse contemporaine à Prague, peut-être même en République tchèque. Pourquoi avoir choisi cet endroit-là?
Bon, en tout cas, la danse contemporaine n'était pas présente en République tchèque, disons, à partir de la fin des années 30. Jusqu'à la fin des années 80. Alors, c'est moitié du siècle qu'on n'a pas eu la chance d'avoir le développement de ce genre énormément fascinant. Et je me suis dit qu'il faut déjà trouver les conditions comme il faut pour la danse contemporaine en Tchéquie. Et ce n'était pas facile. J'ai essayé 400 espaces différents. Sans succès, parce que personne ne s'en occupait, parce que c'était la discipline artistique qui n'était pas connue chez nous. Et finalement, quand j'ai réussi dans cette compétition publique du quartier de Prague 3, qui a donné cet édifice à l'utilisation culturelle, je me suis dit, mais c'est la chance comme il faut, et il faut trouver de l'argent, des moyens pour reconstruire un bâtiment qui était dès le début une usine métallurgique à partir de 1888. Et puis ça s'est changé pour le cinéma en 1910. Et c'était Monsieur Ponet, František Ponet, qui l'a fait. Et je pense que cette utilisation culturelle, c'était ça qu'il a fallu à reprendre pour cet édifice, qui a quand même gagné Slotsy très fort. Et ça m'a pris 3 ans de trouver d'argent, faire la reconstruction. Et en 2001, on a ouvert le théâtre Ponet comme le théâtre de la danse. Disons, jusqu'à ce moment, c'est un seul théâtre professionnel qui s'occupe de la danse contemporaine.
Votre passion pour la danse date depuis quand?
J'étais danseuse dans les années 80, mais c'était la période sous l'Ancien Régime et on n'a pas pu faire la danse contemporaine au niveau professionnel.
Il y avait quand même des tentatives, non?
Oui.
Pavel Schmock, par exemple.
Oui, mais Pavel, il a quand même utilisé la technique classique pour sa danse plutôt néoclassique. Mais à ce temps-là, c'était super moderne, bien sûr, ici dans le contexte tchèque. Mais pour moi, ce qui m'a attiré, c'était les grandes personnalités de la danse américaine, comme Martha Graham, Merce Cunningham, José Limón. Et on n'a pas eu la chance de l'étudier ici. Alors je me suis dit, je suis sortie en France tout de suite en 90-91, après la chute du mur de Berlin, et je me suis dit, une seule chose, comment je peux aider au développement de la danse contemporaine, c'est d'inviter à Prague les grandes personnalités. On a commencé avec Maggie Marin, des grandes programmations, le théâtre de Genève, etc., et présenter qu'est-ce qui se passe dans tout le monde, surtout en Europe, et puis lentement essayer à construire les conditions comme il faut pour la danse domestique.
Et au niveau donc de la danse contemporaine, comment ça s'est passé sous le communisme? Comment vous avez pu quand même être au courant un peu de ce qui se passe à l'Occident? Et pourquoi en fait le régime n'était pas favorable à ce domaine-là de l'art? C'était uniquement la version envers tout ce qui venait de l'Occident?
D'un côté, on a eu toujours de la chance avec les instituts culturels comme l'Institut français de Prague, l'ambassade des États-Unis à Prague, qui ont donné les émissions des films, les projections des films de danse qui nous ont énormément attirés. On a eu plusieurs sources d'informations un peu secrètes. Le régime n'a pas du tout donné la chance au développement des arts contemporains comme il faut, parce que surtout dans le domaine de la danse, on donne beaucoup d'espace à l'individu. C'est-à-dire, c'est pas comme l'école russe classique où chacun est le même, doit être le même, c'est pas la discipline de cette technique, mais c'est le développement d'individualité. Et c'est quelque chose que le régime n'a pas voulu, bien sûr. Et c'est la même chose dans les autres disciplines artistiques. Et de mon avis, c'est la raison la plus forte pourquoi le régime communiste n'a pas voulu donner les conditions pour ce développement. La danse classique, surtout l'école russe, et la danse folklore, c'était tout qu'ils ont laissé passer.
Et lorsque vous êtes partie après la révolution de velours en France, vous parliez déjà français?
Oui, j'ai fait beaucoup d'études du français. Ça m'a sauvé un peu la vie parce que j'ai adoré les chansons françaises, la littérature, la poésie. Et alors j'ai étudié le français à partir de mes 12 ans, quelque chose comme ça. Oui.
Dans les interviews, vous évoquez votre père qui vous a beaucoup influencé. Il n'avait rien à voir avec la danse, si je ne me trompe pas, si?
Non, il n'était pas du tout engagé dans le domaine ou le monde de la culture. Il était spécialiste d'UNESCO pour l'industrie du forêt. Il a su très bien comment sauver les forêts en Afrique, en Asie. Il était expert sur ça. Malheureusement, il n'a pas... Il est mort à Mozambique dans les années 80, mais c'est vrai qu'il a parlé 9 langues différentes. Il m'a beaucoup influencé au niveau de linguistique, disons. Oui.
Une question encore qui concerne la danse contemporaine. Quand on voit les spectacles qui se font aujourd'hui chez nous, en Europe, dans le monde entier, on a l'impression que c'est déjà parfois à la limite de notre imagination, à la limite des possibilités physiques, humaines. Qu'est-ce qu'on peut encore inventer aujourd'hui dans la danse contemporaine? Comment ça évolue?
Ça évolue énormément parce que c'est pas seulement la question des limites du corps qui sont toujours... à poser. C'est vrai que on est fasciné par la créativité d'artistes qui peuvent vraiment changer votre point de vue à ça que le corps peut faire, et on le verra de nouveau cette année. Mais l'autre question, ce sont les nouvelles technologies, l'entrée de ce monde digital, disons, sur scène. Ça peut donner les effets énormément forte et fascinant, mais ça peut aussi donner un peu moins de dimension humaine, que je trouve très important dans les arts vivants. Et je suis toujours en discussion avec mes collègues partout en Europe et au monde. Qu'est-ce que ça donne si je vais au Japon et je vois toutes les technologies? Mais c'est un peu froid pour moi toujours. Je me dis, est-ce que notre cœur de centre d'Europe n'est pas plus fort pour toucher les spectateurs et pour voir que la dimension humaine doit toujours être présente, parce que nous avons les technologies partout, nous avons les nouvelles technologies avec nos iPhones, mobile phones, iPod, iPad, je ne sais pas quoi. On a toujours les nouvelles technologies pour la télévision et je ne sais pas, vie et quoi d'autre. Et à côté de ça, ça s'est disparu un peu, cette dimension humaine, relation face à face. Et je le trouve important. Et pour moi, c'est le rôle du théâtre de garder le cœur. Et la relation humaine. Et ça que je vois vraiment fort à Pilsen, c'est cette atmosphère qui ne s'est pas disparue, qui est très différente des grandes villes en comparaison avec Prague ou Marseille, les grandes villes qui sont quand même un peu isolées en ce qui concerne les relations humaines.
Nous parlerons des préparatifs du projet Plzeň, capitale culturelle de l'Europe en 2015, dans lequel Ivona Krojcmanová est appliquée dans une de nos prochaines émissions. Rappelons que la 23e édition du festival international Tanec Praha, Prague Danse, aura lieu du 6 au 29 juin prochain, avec comme principal invité le chorégraphe flamand El Sidi Larbi Cherkaoui et sa compagnie. Plus de détails sur www.divadloponet.cz et www.tanecpraha.cz.
Et c'est déjà la fin pour aujourd'hui du bloc actualité proposé par la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention et de votre fidélité.